Être une bonne entrepreneuse pour moi, c'est être curieuse. Avant de racheter My English School France, j'étais employée de la structure comme directrice du centre de Lyon. En 2020, j'ai racheté, mais avant tout ça, j'étais aussi directrice commerciale dans d'autres groupes comme dans le digital. J'étais spécialiste de tout ce qui est référencement SEO, SIA pour accompagner les sociétés qui souhaitaient se référencer sur Google. Et avant ça encore, j'étais entre la France et l'Espagne parce que je travaillais pour un gros groupe assez connu mondialement dans les séjours linguistiques. On envoyait un peu des personnes dans le monde entier pour pouvoir améliorer l'anglais en immersion dans les pays cibles comme l'Angleterre, l'Australie, les États-Unis. Et j'ai fait ça pendant plus d'un an entre la France et l'Espagne. Donc du lundi au mercredi, j'étais en France et du mercredi au dimanche, j'étais en Espagne. Non, c'était l'inverse, mais c'est pas grave. Ce qui m'a poussée à entreprendre, c'est un peu le fait de ne pas avoir le choix. En fait, pendant la crise Covid, c'était où je décidais de reprendre ma société, où je ne savais pas ce qui allait arriver des 6 collaborateurs qui étaient avec moi à l'époque. Donc je me suis dit, il faut reprendre cette société. J'ai toujours rêvé d'être dans l'entrepreneuriat. J'ai toujours eu un peu l'esprit à vouloir apporter ma vision, apporter des solutions, mais jamais dans mes propres sociétés. J'ai essayé 2-3 fois de créer des petits trucs qui n'avaient pas fonctionné. Et puis j'ai racheté My English School, qui a été vraiment une aubaine pendant le Covid, qui m'a lancée dans l'entrepreneuriat, mais j'étais vraiment toute seule à cette période-là, donc ça a été très compliqué pour les démarrages. Alors au moment où j'ai racheté, en effet, la société n'allait pas très bien, mais elle était détenue par un groupe italien qui faisait plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc autant dire qu'ils n'avaient pas de problème, eux, avec le fait d'avoir une cellule qui ne fonctionnait pas exactement comme ils le souhaitaient. Quand moi j'ai racheté par contre, avec mes deux associés qui sont Julie Guillotin et Fabio Grandi, nous on était tout petits, on n'avait pas forcément d'argent, ou du moins beaucoup moins que ce grand groupe italien, donc on a dû très rapidement mettre en place des actions comme par exemple revoir la méthode complète, parce que nous à l'époque on était payés sous 24 voire 36 mois, parce que dans la formation c'est un peu spécifique, mais on est payé en fin de formation. Donc il a fallu qu'on revoie toute notre méthode, qu'on améliore les prix, qu'on renégocie tous les contrats qu'on avait, si j'en nomme un. On avait le contrat téléphonique, par exemple. Le standard nous coûtait 500 € par mois. Aujourd'hui, on est passé sur un standard qui nous en coûte 79 et on est très heureux. Donc vraiment, aller retravailler tous ces contrats-là, ce qui nous a permis, en fait, tout simplement de gagner de l'argent. Et la première chose que j'ai faite aussi, soyons honnêtes, c'est de retirer mon salaire. J'ai eu le droit à Pôle emploi pendant 24 mois quand j'ai lancé la société, mon associé aussi, Fabio, ce qui a permis de diviser les charges énormément pour la structure. On n'a cependant jamais revu les salaires des collaborateurs, mais au moment du rachat, je me suis rapprochée de mes collaborateurs et je leur ai dit « pendant un an, je ne vais pas pouvoir vous payer de primes. Si vous souhaitez partir, je peux le comprendre. » Et au final, ils sont tous restés. Donc c'est comme ça qu'on a remonté la barre, en travaillant d'un côté sur les frais et de l'autre sur négocier ce qu'on pouvait pour pouvoir s'assurer que la société pouvait survivre. L'ouverture au monde. Quand on parle anglais ou quand on parle une autre langue, on se rend compte qu'il existe des cultures complètement différentes à la nôtre et quand on s'ouvre au monde, il n'y a rien de plus beau. L'anglais est certainement la langue qui nous permet de pouvoir parler dans les quatre coins du monde avec n'importe qui. C'est pas la langue la plus parlée au monde. La langue la plus parlée au monde, c'est le mandarin. Mais c'est normal, ils sont quand même 2 milliards dans leur pays. Mais l'anglais, ça reste quand même la langue internationale. Et en fait, c'est la beauté de se dire, quand je peux échanger avec des gens, je peux comprendre d'autres manières de penser, parce qu'on est vraiment différents dans le monde entier. Et ça ouvre l'esprit, quoi. Moi, ça m'a changé la vie. L'anglais m'a changé la vie. Donc, je voulais apporter ça dans la vie des gens. Tout à l'heure, je disais que je travaillais dans le digital. Le digital, j'avais l'impression de vendre des choses que je ne pouvais pas vraiment mettre en application. J'avais un peu l'impression de vendre du rêve. Le matin, je me levais, j'étais pas fière de ce que je faisais. Dans l'anglais, je suis fière tous les matins, quoi. Quand je me regarde dans le miroir, je me dis, je change des vies, je permets à des gens de trouver des emplois, je permets à des gens de partir à l'étranger, de vivre des aventures. Je permets aussi à des gens de se marier parce qu'ils se rencontrent en formation chez nous. Et je suis heureuse parce que ça ouvre des portes. Ce que je préfère dans l'entrepreneuriat, c'est le fait d'être ma propre boss. De pouvoir vraiment définir des lignées. J'ai une vision, je veux aller quelque part et je peux emmener ma société vers là où je le souhaite. Attention, être entrepreneur, ça ne veut pas dire prendre toutes les décisions tout seul. Moi, j'ai mis en place très rapidement un CODIR, donc un comité de direction, avec mes équipes pour qu'on puisse ensemble prendre les décisions. Mais ce que j'aime, c'est qu'à la fin de la journée, quand tu es entrepreneur, c'est ta société, donc c'est aussi en grande partie ta vision. Même si tu as des personnes qui vont te donner des idées et qui vont t'aider à évoluer ou que tu puisses ne pas prendre les décisions tout seul, c'est quand même toi qui fais en sorte que ta boîte, elle fonctionne ou non. Donc ça, j'aime beaucoup. Après, ça peut être un stress que certains n'acceptent pas. Dans mon cas, à moi, c'est un stress que j'adore parce que je me dis que demain, quand je quitterai ce monde, j'aurai potentiellement créé un groupe qui fera la différence dans la vie des gens et ça sera grâce à moi. Le capitalisme solidaire. Depuis que j'en ai parlé, tout le monde revient vers moi avec cette question. Pour moi, le capitalisme solidaire, c'est assez simple. C'est quand tu es une société ou quand tu as une société qui fonctionne et qui fait de gros chiffres d'affaires avec des beaux résultats, je reste persuadée que des entrepreneurs comme moi, comme d'autres, pourraient reverser une partie de ce résultat net à des petites structures de la région locale qui ont besoin en fait de se développer, qui n'ont pas forcément les aides des banques, qui n'ont pas forcément les aides d'État, mais qui ont des bons produits, qui ont des bons services et qui n'arrivent pas à grandir. Donc j'en parlais, on a le 1% d'art par exemple, quand on crée des nouveaux bâtiments, notamment dans le public, le public oblige, enfin l'État, le gouvernement oblige de remettre dans le projet global de mettre 1% d'art, c'est-à-dire 1% du montant global dans de l'art. Bah, je pense que ça pourrait être bien qu'on crée une espèce de loi comme ça, après une loi oui ou non, ou du moins autoriser les sociétés qui le souhaitent à pouvoir faire le 1% solidaire. Donc, c'est-à-dire, moi j'ai un résultat cette année de 342 000 euros, ben, je reverse 1% à une société de mon choix en local. Ça permettrait de relancer l'économie locale, de permettre au gouvernement aussi d'être potentiellement moins présent. D'éviter les PGE, d'éviter ce genre de choses, parce qu'en fait, les sociétés rentables en local pourraient aider celles qui ne le sont pas ou qui le sont moins à se développer. Pas parce qu'on vit en France et que j'ai voyagé dans beaucoup, beaucoup de pays du monde, et qu'on a beau dire qu'en France c'est la misère, il y en a beaucoup qui n'ont pas été en Asie, il y en a beaucoup qui n'ont pas été aux États-Unis non plus. On a la chance en France quand même d'être accompagné, d'être aidé. Moi je suis née dans une cabine téléphonique, aujourd'hui je suis chef d'entreprise et je ne l'ai pas fait toute seule. Hein. Ma mère est décédée, j'avais 9 ans. C'est l'État qui m'a pris sous son aile, j'ai été pupille de l'État jusqu'à mes 25 ans. L'État m'a payé mes études. Donc aujourd'hui j'espère que ce que je paye permet à d'autres, français ou non, soyons clairs, de pouvoir bénéficier de ce service. Parce qu'aujourd'hui, on arrive vraiment dans une économie où c'est de plus en plus dur pour l'État de subvenir aux besoins des Français, parce qu'on a plus de Français qui bénéficient de ces aides. C'est ce qu'on dit, moi je pense pas. Je pense surtout qu'on est dans un pays où le socialisme, des fois, arrive à ses limites, mais même s'il arrive à ses limites, je continue et je souhaite continuer à participer à ce système-là, parce que je suis contre le capitalisme unique. Je veux que les gens puissent bénéficier et être aidés quand ils sont vraiment dans la galère, en fait, tout simplement. Pas tout le monde bénéficie des aides sans raison, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire. Souvent, c'est il y a des vraies raisons derrière. Donc voilà, je veux participer à ça, à cet effort collectif. J'y ai cru pendant longtemps. J'y ai cru pendant longtemps parce que je pense que je suis une des raisons. Enfin, moi, pour moi, la méritocratie a vraiment fonctionné à l'époque où je suis née. Moi, je suis née dans les années 90. Dans les années 90, si tu avais envie d'y arriver, tu pouvais y arriver. Puis après, j'ai un nom quand même. Moi, mon nom initial, c'est Déborah Thiarion, mon nom de naissance, Guillotin maintenant. Donc, j'ai un nom qui me permet aussi de pouvoir bénéficier de cette méritocratie. Mais dernièrement, j'ai lu un article qui disait que la méritocratie, en fait, on se rend compte que ça représente que 2%, c'est-à-dire 2% des Français qui sont nés au plus bas et qui ont réussi, de par leur travail, à aller dans les hautes sphères. Et en fait, ça me pose problème parce que je me dis que la méritocratie devrait exister, parce qu'on est quand même dans un pays où, si demain tu veux travailler et tu veux faire les choses bien, on devrait pouvoir t'aider et t'accompagner. Mais je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, j'ai racheté un média dernièrement. Et en faisant des analyses, je me suis rendu compte que quand il y a des radiations de société, dans 95% dans 95% des cas, pardon, ceux qui se retrouvent avec des interdictions de gestion après avoir fait faillite, c'est des musulmans, c'est des personnes qui ont des noms arabes, c'est pas des personnes qui ont des noms français. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a beau dire ce qu'on veut, la méritocratie, elle est OK pour les personnes qui ont des noms franco-français, mais elle est un peu moins pour des noms qui sont différents. Et je trouve ça dommage. Bien sûr. Et je trouverais dommage de ne pas en avoir. Est-ce que vous voulez savoir c'est lesquels? Bon, d'accord. Je vais vous le dire. Alors, en rôle modèle, dernièrement, j'ai rencontré deux femmes incroyables. Sandra Viricel, qui est dans l'immobilier, elle est dans les émissions de Stéphane Plaza. Et Alice Labouze, qui elle, est dans tout ce qui est de la partie financière. Chaque année, en fait, j'ai un peu mes rôles modèles. Hein. Je change constamment, parce que pour moi, c'est important d'avoir toujours de nouveaux mentors, de nouvelles personnes, et de découvrir de nouveaux mondes aussi. Mais c'est vrai que ces deux personnes-là de 2024 ont vraiment changé ma vision du business, changé ma vision de la vie, changé ma vision de ce que je souhaitais devenir. Et pour le coup, c'est mes derniers rôles modèles. Mais le rôle modèle de ma vie, c'est Céline Dion. Mais bon, c'est parce que je l'adore, mais ça, c'est une autre chose. Elle est partie de rien, il faut le dire. Ils étaient 13, elle dormait dans un tiroir et elle est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc je me dis qu'elle, vraiment, elle a réussi sa vie. Et au-delà de la chanson, elle est surtout... Elle a des business incroyables, elle fait fructifier son argent. Après, il y a aussi des personnes comme Taylor Swift dernièrement, où tout le monde les voit pour la musique, mais moi, je les vois plutôt pour le côté business. Et dans le cas de Taylor Swift, cette fille est incurable... Cette fille est intraitable dans le business. Donc ça reste aussi quand même des rôles modèles, quoi, de te dire que t'es des personnes qui n'avaient rien, qui sont devenues tout et qui sont devenues très intelligentes aussi côté business. Alors, je suis devenue business angel pour la simple et bonne raison. Je parlais tout à l'heure du capitalisme solidaire et pour moi, c'est l'une des meilleures moyens de montrer le fait qu'on peut aider d'autres entrepreneurs. Aujourd'hui, en France, je n'ai pas la possibilité, et c'est vrai, de prêter de l'argent à une société qui existe déjà, à une société qui fonctionne. Par contre, j'ai la possibilité d'investir dans le capital de start-up qui se développent, donc les aider en prenant une part du capital. Je n'ai pas la possibilité de leur donner l'argent, donc ça n'existe pas en France. On n'a pas le droit de donner de l'argent à une structure, enfin à une personne morale. Donc quand on a des artisans qui, eux, existent déjà, tu ne vas pas leur acheter des parts de société, il n'y a aucun intérêt. Par contre, aider des petits qui souhaitent se lancer et les banques ne les suivent pas, parce que c'est le cas en France, quand tu n'as pas trois bilans positifs, la banque ne te prêtera pas d'argent. Il y a besoin de business angels, on a besoin de personnes qui ont réussi à faire de l'argent et qui ont envie d'aider cette économie locale, ou cette économie nationale d'ailleurs, à pouvoir se développer. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Et un autre point, j'investis que dans des startups qui ont un réel intérêt pour l'humain, pas pour des startups qui vont faire des choses qui sont simplement capitalistiques avec l'idée de toujours faire plus d'argent. J'ai besoin que les sociétés dans lesquelles j'investisse puissent vraiment redonner à l'humain. Et quand je donne de l'argent à une startup, la première chose que je lui dis, c'est le jour où toi tu auras de l'argent, enfin au fondateur bien sûr, pas à la startup, le jour où tu as de l'argent, j'aimerais que tu fasses la même chose, que tu aides des plus petits que toi à pouvoir grandir, donc investir dans des startups. En leur laissant la main sur leur business, moi je suis pas là pour leur dire quoi faire, je suis pas là pour leur mettre la pression. Une start-up, elle coule, c'est pas grave, quand j'investis mon argent, je sais que ça peut être le cas dans 8 cas sur 10. Je veux pas leur mettre la pression, mais je veux leur montrer, je suis là, je veux t'aider, et le meilleur moyen de le faire, c'est de te prêter de l'argent, de t'en donner juste. D'être curieux. Le meilleur conseil que je pourrais donner à un entrepreneur, c'est d'être curieux, au-delà du fait d'être bien accompagné, parce que ça, c'est une certitude, que ce soit avocat fiscaliste, comptabilité, expert comptable, peu importe. Être bien accompagné, mais être surtout curieux. Moi, je le vois, un mauvais conseil comptable m'a coûté 200 000 euros d'impôts, alors que si j'avais été ne serait-ce qu'un peu plus curieuse et que j'avais regardé moi-même, j'aurais pu très clairement voir en deux secondes que le conseil qu'on m'avait donné allait me poser problème dans le futur, au vu du développement que j'envisageais. Un expert comptable ou un avocat fiscaliste, s'ils vous accompagnent, ils n'ont pas votre vision, ils ne connaissent pas les choses que vous souhaitez mettre en place, donc ils vont vous donner des conseils en fait, qui sont souvent court-termistes, mais si vous avez une vision longue, c'est super important d'être curieux vous-même et d'aller chercher les choses. Moi, je suis devenue une experte en montage de société, je suis devenue une experte littéralement en fiscalité. Aujourd'hui, je débat avec mes avocats fiscalistes sur certaines solutions qu'ils mettent en place pour leurs propres clients. Donc, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Personne ne pourra savoir mieux que vous votre business. Pendant des années, j'ai fait mon bilan comptable jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, je me rende compte que j'avais que 200 euros d'écart avec ma comptable et que je pouvais lui faire confiance, quoi. Alors, dans mon monde à moi de la formation, non. Moi, je le vois pas vraiment. Je vois pas la problématique d'être une femme. Mais dans le monde, par exemple, d'Alice Labouze, dont je parlais tout à l'heure, dans la finance, oui, c'est un vrai problème, parce qu'aujourd'hui, en 2024, dans la finance, il existe encore des clubs privés et réservés uniquement aux hommes. Il est clairement indiqué, les femmes ne peuvent pas venir. Donc, je trouve que c'est quand même assez incroyable de se dire qu'en 2025, des clubs privés se permettent de ne pas accepter des femmes. Et donc, oui, dans ce domaine-là, qu'est la finance, par exemple, le plafond de verre existe réellement pour les femmes. Ouais. Dans le domaine de la formation, je ne peux pas dire ça, ça serait un mensonge. Je ne le vis pas. Alors, pour moi, l'équilibre vie privée-vie perso est primordial, autant pour moi que pour mes collaborateurs et mes associés, parce que la vie est courte. En moyenne, une femme va vivre 76 ans, un homme va vivre 70, je crois que c'est ça, je ne suis même pas sûre. Sauf que sur l'échelle de l'humanité, l'homme représente, sur une échelle qui est de 40 cm, l'homme représente même pas 0,7 cm. Donc je me dis, la vie est tellement courte que si on passait notre vie entière à travailler constamment comme des acharnés, ça serait quand même dommage. Donc non, la vie personnelle est extrêmement importante. Pour moi, c'est la priorité numéro un et vient ensuite le travail. La présence sur les réseaux sociaux, au début, on l'avait mise en place parce qu'on se rend compte qu'avec les générations qui arrivent, il est très important de connaître la personne qui est derrière un service ou derrière un produit. On n'est plus comme à l'époque de nos parents où en gros on avait un service ou un produit et puis on l'achetait parce qu'on aimait bien. Aujourd'hui, on a besoin de comprendre à qui on achète et pourquoi on achète. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place tous nos réseaux sociaux. Après, moi je suis un peu bizarre, c'est-à-dire que je suis tellement une aliénée dans le monde de l'entrepreneuriat que ça marche très bien parce que quand t'entends une patronne dire qu'elle adore se faire taxer à 70%, je me fais insulter sur les réseaux sociaux en mode « t'es une menteuse », je m'en fous. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, c'est devenu une vraie manière de pouvoir m'exprimer au-delà de la formation, au-delà de mon business, ce qui fait qu'aujourd'hui, je travaille avec des organes gouvernementaux pour trouver des moyens d'améliorer la qualité dans la formation. Donc ça m'a permis en fait d'ouvrir beaucoup plus de portes, d'être présente sur les réseaux sociaux. On propose des partenariats pour aller vendre d'autres produits, c'est pas trop mon délire, mais je sais que les réseaux sociaux aujourd'hui, ça peut être une source de revenus au-delà de son business si vraiment tu as une présence forte. Mes enfants. Ma plus belle réussite, je le dis, j'ai abandonné un Porsche Macan pour un 5008. Et c'est ma plus belle réussite professionnelle, personnelle, tout ce que vous voulez, parce qu'en fait, le Porsche Macan ne pouvait pas accueillir mes jumeaux. Le 5008 le peut, et c'est la plus belle chose du monde quand tu te retournes et que tu vois tes enfants derrière toi, dans ton 5008 et pas ton Porsche Macan. Alors que mon rêve a toujours été d'avoir un Porsche Macan. De changer de véhicule, ça m'a pas du tout posé problème. Ça a été vraiment ma plus belle réussite personnelle de me dire « Waouh, aujourd'hui je suis mère de famille, je roule en 5008 et je suis très fière ». Alors oui et non. Utopiste parce que oui, j'ai des pensées qui sont utopiques. Par contre, je suis très réaliste dans le sens où je sais que ce que je pense ne pourra jamais fonctionner parce que je suis entre guillemets encore trop une aliénée en fait. Comment expliquer ça? J'ai 35 ans depuis 3 jours. Donc j'ai 35 ans depuis 3 jours et quand je parle aux gens qui ont 35 ans aujourd'hui, on est dans un monde où on dit moi j'ai envie de faire plus de thunes, toujours plus de thunes, toujours plus de thunes, c'est moi, c'est moi, c'est moi et les autres j'en ai rien à faire. À côté de ça, on va parler à des gens qui ont 60 ans et eux vont te dire l'important c'est la France, c'est la communauté, c'est le patriotisme. Et en fait, moi je suis un peu en mode patriotiste, j'ai envie de donner, j'ai envie d'aider. Donc je me retrouve plus du côté de la soixantaine que des 35 ans d'aujourd'hui. Et je me dis si je vois aujourd'hui les investisseurs, les personnes qui arrivent sur le marché, on est beaucoup plus dans l'individualisme que dans le groupe. Et du coup, non, je me rends compte que ma vision à moi, même si j'en parle, même si je fais en sorte qu'on la voit de plus en plus, elle est très utopiste parce que les gens de ma génération, c'est pas ce qu'ils veulent. Eux, ils veulent toujours plus d'argent dans leur poche. Et je trouve ça dommage. Parce que le jour où on meurt, on n'emporte pas notre argent dans la tombe. Là, mon prochain projet pour l'avenir, c'est Lyon Entreprise, que je disais tout à l'heure sur la partie entrepreneuriale, accompagner les entrepreneurs, leur donner une safe place, parce que on le voit pas beaucoup et on n'en parle pas beaucoup, mais le mal-être de l'entrepreneur est réel. Le fait que les entrepreneurs ne se sentent pas soutenus, c'est réel. Le fait que quand un entrepreneur perd une société, dans beaucoup de cas, je crois que c'est plus de 50% des cas, il finit en faillite personnelle. Dans le fait qu'aujourd'hui, encore en 2025, on a des entrepreneurs qui se suicident. J'ai eu le cas d'un ami qui s'est suicidé en juillet dernier parce qu'il a perdu sa société. On a un tel mal-être des entrepreneurs parce qu'ils n'ont pas de soutien, ils n'ont pas d'accompagnement, que j'ai envie d'en faire mon cheval, vraiment mon cheval de bataille où je les accompagne et on ne devrait jamais avoir un entrepreneur en France qui se fout en l'air parce que sa boîte a coulé. Quoi qu'il en soit, peu importe avec qui vous parlez, on reste des humains, que ce soit Bernard Arnault, le président de la République, ils se lèvent chaque matin, ils font la même chose que nous, ils vont aux toilettes, donc si vous avez quelque chose à faire dans la vie, n'oubliez jamais que l'humain reste la priorité. Peu importe que vous soyez tout seul, que vous ayez des amis, que vous soyez accompagné ou pas, N'hésitez pas à aller voir les gens, à aller vers les autres, parce que c'est la plus belle chose du monde. Quand vous allez ouvrir votre cœur à une autre personne, vous allez vous rendre compte que les gens n'attendent que ça. On est dans un monde où les gens sont de plus en plus seuls et on a besoin de reconnecter ensemble. Donc levez-vous, allez voir quelqu'un, parlez, découvrez d'autres personnes, pas forcément des gens que vous connaissez, allez voir des gens qui n'ont rien à voir avec vous, qui ont des visions politiques différentes, des chefs d'entreprise qui sont plus gros que vous, n'hésitez pas à les appeler, demandez-leur des conseils, demandez-leur s'ils peuvent vous voir pour boire un café, et vous allez voir que ça va vous aider, que vous soyez entrepreneur ou non, ça va vous aider à ouvrir vos chakras, à découvrir le monde et à toujours vous améliorer, parce qu'à la fin de la journée, on s'en fout d'être meilleur que les autres, ce qu'on veut c'est d'être meilleur que la personne qu'on était hier.